Là, avec Manuela et une semaine de famille, de vacances familiales. On était dans le Morvan. Je ne sais pas si vous connaissez le Morvan. C'est un pays où il fait froid. C'est un pays où il pleut. C'est un pays où il fait c'est très sauvage. Voilà. Mais c'était. Non. On a eu un bon temps. Chaque semaine, vous savez que mon papa, qui a 90 ans maintenant, on a fêté ses 90 ans. Chaque année, il organise. Ce camp familial où ses enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants se réunissent ensemble, chacun dans un bungalow, vous voyez, dans un camp. On prend tout un camping là, et puis on est heureux de se retrouver ensemble. Et voilà, donc c'était un bon temps. Et puis ma sœur, vous savez, j'ai une sœur sur Paris, qui est Odile, vous ne la voyez pas souvent, mais de temps en temps elle est venue. Et elle a, après des études de droit et une carrière dans les mairies, elle a bifurqué complètement parce que ce n'était pas son don. Et en fait, son don, c'est l'animation. Et l'animation, elle amène, figurez-vous, des femmes de la région de Trappes, donc la banlieue parisienne très musulmane, donc des femmes voilées qui ne sont jamais sorties de leur cité. Elle leur fait découvrir Lausanne, ou alors Clermont-Ferrand, le Massif Central. Ils arrivent dans des villages paumés, et puis avec toutes ces femmes voilées derrière elles, des femmes heureuses de sortir de chez elles, prêtes à n'importe quelle animation qu'elles proposent, elles disent oui. Donc on sent une soif de gens qui n'ont jamais eu de temps de vacances. Et donc la sœur, elle a vraiment ce beau rôle-là que j'ai découvert dans ce partage. Voilà, je suis aussi touché par le témoignage de Marie par rapport à l'île de la Réunion, et je vous invite à prier pour cette île. Et vous savez qu'il y a un séminaire qu'avec Manuela on y va début décembre à cette même église d'où est ma sœur. Et puis hier, donc une Alice Morel qui était de Fontenay-sous-Bois, qui est chez nous depuis un an, prof de français, et qui est pour la première fois est allée au culte dans cette église là-bas. Et je crois que le Seigneur est en train de tisser des choses particulières au niveau de toute la francophonie. Et donc on est très très encouragé de ce lien d'amour. Les îles loueront Dieu, et je crois que la France, c'est pas seulement la métropole, hein. N'oublions pas que la France est aussi ce pays, ce grand pays où le soleil ne se couche jamais. Il y a toujours une part du territoire français qui est sous le soleil, tellement on est sur les 5 continents. Et donc je crois qu'il y a une intention de Dieu par rapport à la francophonie. Si tu es né français, si tu parles la langue française, fais attention. Il semblerait que ça soit pas un hasard. Et si tu es français, Dieu veut te mettre à cœur au moins les nations francophones en plus de la francophonie. Donc vraiment que soyons attentifs à ce que Dieu est en train de faire. Dans l'océan Indien, il y a quelque chose de particulier que Dieu fait. Madagascar, La Réunion, Mayotte aussi, ces îles-là. On a de plus en plus de contacts, ce qui est très intéressant. Voilà, donc quelques nouvelles. J'avais rien oublié d'autre. Voilà, non, ça va. Alors, j'avais plusieurs jours, l'université d'été. Donc, plusieurs de nos jeunes y étaient, donc je pense, enfin nos jeunes et moins jeunes, Fabrice et Julie Klein avec leurs 3 enfants. Ensuite, il y avait aussi Claire, et puis la deuxième promotion que faisait Émilie Pierre-Élien. Donc, ils étaient 4 de Josué, plusieurs du réseau Héritage, dans ces 15 jours d'université d'été, de formation, de transmission d'ADN sur le royaume de Dieu, etc. Et donc c'était un temps très 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 chouette, vraiment je peux dire. Moi j'étais la première semaine, donc ils ont vécu encore un deuxième temps. C'est des temps où il y a de la guérison, l'onction de Dieu qui brise les jougs, hein, ces jeunes qui en 15 jours ils font de telles relations qu'ils chialent comme des enfants quand ils doivent se quitter, tellement Dieu fait des choses fortes en 15 jours au milieu d'eux. C'est vraiment un temps, donc pour cet ADN, pour tous ceux qui sont appelés à un ministère, on est tous appelés à un ministère, hein, mais ceux qui ont déjà quelque chose où ça se voit, où c'est en train de se lever, eh bien, ces jeunes sont encouragés à la faire. J'espère que l'année prochaine, d'autres jeunes pourront la faire. C'est sur 2 ans, avec du travail au milieu. Ils ont fait leur première prédication, pour certains, dans les églises du Sud-Ouest. Donc c'était vraiment un temps très chouette. Voilà, alors la parole ce matin, il y a 2 textes que je veux qui sont dans mon cœur. Ces 2 textes qui ont une même thématique. Le premier texte, c'est 1 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui êtes maintenant être le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ça, c'est le premier texte. Et retenir en particulier, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Deuxième texte, c'est 1 Samuel, chapitre 11, versets 1 à 8. On plonge loin dans l'histoire, bien avant Jésus. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Et je lis ce passage. Naash, l'ammonite, vient, c'est donc les ennemis d'Israël, hein, vient assiéger Jabès en Galade. Galade, c'est une ville en Israël. Alors, tous les habitants de Jabès dirent à Nabash, « Traite alliance avec nous et nous te servirons. » Mais Nabash, l'ammonite, leur répondit, « Je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. » Les anciens de Jabès lui dirent, « Accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. » Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül. Ils dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici, Saül revenait des champs, derrière ses bœufs. Et il dit, « Qu'a donc le peuple pour pleurer ?» On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Et dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu. Sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs, les coupa en morceaux, qu'il envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël en disant, « Quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. » La terreur de l'Éternel s'empara du peuple qui se mit en marche comme un seul homme. Et la suite du texte nous montrera une délivrance accordée par l'Éternel au travers de Saül. Alors, c'est quoi le rapport entre ces deux textes qu'on a lus? Saül, il venait, juste le chapitre précédent, il venait d'être oint roi par Samuel. Saül était quelqu'un de tout simple. C'était quelqu'un qui jamais pensait qu'un jour il allait être roi. Peut-être un peu comme certains d'entre nous. On n'a jamais pensé qu'un jour on serait roi. Et quand la Bible dit « tu es de race royale », attention, ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une figure de style, ce n'est pas pour faire bien. Dieu dit « tu es roi, fils de roi ». Et donc Saül, jeune roi, Samuel juste avant, avait prophétisé, il avait demandé à toutes les tribus de venir. Et ils avaient une sorte de technique, on ne sait pas trop ce que c'était, une sorte de tirage au sort, où ils s'attendaient à ce que Dieu parle. Et donc, toutes les tribus ont été mises de côté, sauf la tribu de Benjamin. Et ensuite, ils mettent par famille. C'est intéressant parce que les familles, selon le cœur de Dieu, c'est drôlement important. Hein. C'est pas, le peuple de Dieu, ce n'est pas un agglomérat de gens. C'est une famille composée de familles. Et donc, c'est très très clair, dans toute la parole de Dieu, on voit que c'est organisé par tribu. On pourrait parler ici de la tribu de Josué, par famille, et chaque famille a bien sûr des fratries, etc. Mais nous savons, cet ordre de Dieu reflète quelque chose de son cœur. Alors, la tribu de Benjamin, elle est choisie, et dans la tribu de Benjamin, il y a Saül. Et vous savez où il était, Saül? Quand on l'a cherché pour être roi, il était planqué. Il était planqué, il sentait le vent venir là, il s'est dit « Oula, moi je vais me cacher, moi. Je vais me cacher, je ne veux pas d'histoire. » Et il s'est caché derrière des bagages. Et la Bible dit « On courut le tirer de là. » Ça c'est intéressant. Vous savez les amis, hein, parfois il faut faire attention, ils vous sortent de vos cachettes et on courut le tirer de là. Et souvent on se cache. Et je dirais que ce que la France a vécu avec les attentats terroristes, il y a plusieurs façons de réagir. Une des façons de réagir, c'est se cacher, survivre. Et on se cache, et on se planque, et on oublie la destinée. Et les soucis, les fardeaux nous empêchent de voir cette destinée royale. Et comme Saül, on se planque derrière les bagages. Et Samuel, il voit Saül. Il dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Et regardez ce qu'il dit. Au planqué, au trouillard, à celui qui était derrière les bagages. Regardez ce qu'il dit. Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Alors il devait se demander, est-ce que personne comme trouillard ou personne comme homme de Dieu, voyez, il n'y a personne qui soit semblable à lui. Il n'y a personne que de tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa des cris, vive le roi. Il n'a pas eu le temps de trop réagir, c'était vite fait. Hein. Planqué, tout d'un coup, roi, et devant tout le monde. Et donc ça a été le début de Saül. Mais alors, il n'avait pas vécu dans cette culture. Il n'était pas fils de roi. C'était la première fois que la royauté était installée en Israël. Vous savez, il y avait une bataille. Quand le peuple a demandé un roi, on a des choses un peu paradoxales. On a l'impression qu'il a péché contre Dieu, parce que Dieu, c'est moi ton roi. Pourquoi tu demandes un roi, comme les autres nations? Mais en même temps, cette royauté, elle était voulue de Dieu, parce qu'elle annonçait la race royale dont allait sortir David, et ensuite des fils de David, Jésus-Christ lui-même. Donc cette royauté, quelque part, Dieu a utilisé bien sûr les hommes, mais il a pris leur plan, mais c'est son plan à lui. Et donc Saül s'est retrouvé roi très rapidement, mais tout de suite après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été oint roi devant tout le monde, et ensuite qu'est-ce qu'il a fait? Il ne savait pas ce que ça voulait dire être roi. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré chez lui, il s'est remis au travail des champs, et il s'est fait conduire par des bœufs. Et il a continué son travail de paysan. Et parce qu'il n'avait aucune idée de ce que ça voulait dire gouverner. Et il y a un événement intéressant qui se passe, c'est l'événement qu'on a lu dans le texte, les Ammonites qui arrivent et qui disent on va faire alliance, on est prêt à faire alliance avec vous, mais on veut crever un œil à tout le peuple d'Israël et ça sera le signe de l'alliance. Vous serez soumis, quoi, vous ne verrez rien. Les alliances qu'on fait avec autre chose que Dieu nous empêchent de voir. Les alliances qu'on fait avec des semblants, avec des faux semblants, avec des, je sais pas moi, avec des idées tordues, nous empêchent de voir. Et le Seigneur dit attention aux alliances qu'on fait. Et dans cette situation d'injustice, dans cette situation où le peuple était opprimé, alors que c'était appelé, le peuple d'Israël, comme nous, on est appelé à être une lumière, à être le peuple de Dieu. Eh bien, voyez, ce peuple-là, il a été, il savait plus qui il était. Il essayait de faire une alliance pour avoir la paix, pour avoir la sécurité. Il était dans la crainte. Et cette crainte l'a amené à vouloir faire un pacte avec l'ennemi pour avoir la paix. Quand tout à l'heure, on a chanté le prince de paix, si on reçoit pas la paix de Dieu, on va essayer de faire des compromis pour avoir la paix, qui n'est pas celle du Seigneur. Et cette paix qui n'est pas celle du Seigneur, elle brouille la vue. Elle nous empêche de voir qui on est et qui est Dieu et ce qu'il veut pour nous. Et donc, nous avons Saül qui entend ça. Et ce qu'il y a de commun entre les deux textes, c'est que par rapport à des situations difficiles, comme des profondes injustices, comme avec le peuple d'Israël vivait dans cette crainte, eh bien, l'identité de roi de Saül s'est réveillée. Vous savez comment se révèlent les identités de fils et de filles de Dieu? Ça se révèle jamais quand tout va bien. Ça se révèle quand ça ne va pas. Quand il y a des situations qui ne vont pas, quand il y a de l'injustice, quand il y a de l'oppression, il y a les héros et l'identité royale qui se réveillent. On prend par exemple l'exemple au niveau des femmes en France à la Seconde Guerre mondiale, qui n'avaient pas le droit de vote, je rappelle. Et alors que la guerre est venue, la résistance, c'était étonnant le nombre de femmes qui se sont levées, qui ont donné leur vie pour ce pays. Des femmes qu'on n'aurait jamais pensé. Mais face à l'adversité, une identité s'est levée. L'identité de roi, de guerrière, de résistante. Ça ne serait jamais réveillé dans une situation normale. Et donc, ces situations que Dieu permet, c'est pas pour écraser, mais c'est pour libérer la véritable identité de l'Église. Et dans un pays qui est mis à mal, dans des nations qui sont mises à mal comme aujourd'hui, Dieu veut lever sa princesse. Il veut lever sa princesse, autant de troublés que l'on vit. Et vous savez, Saül, quand tout le monde a dit vive le roi, il y a eu deux catégories. Il y a eu ceux qui ont méprisé Saül. Ils le connaissaient. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il peut faire de bien lui? On le connaît, il a toujours vécu comme un minable, planqué. Lui, le roi, ils l'ont méprisé. Et la Bible, vous savez comment ils l'ont méprisé ? La Bible donne un détail intéressant. Ils l'ont méprisé en lui apportant aucun présent. C'est-à-dire que honorer le roi à l'époque, dans l'investiture royale, c'était lui apporter un présent, lui donner honneur. Ce matin, on apporte notre louange. On ne vient jamais les mains vides à Dieu. On vient avec notre louange. On vient avec notre cœur. C'est ça, honorer Dieu. L'honneur, c'est apporter quelque chose, un présent. Et là, ils ne lui ont rien apporté et ils l'ont méprisé. Mais la Bible dit aussi, il y avait d'honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur et qui l'ont suivi. Bon, il s'est recaché à nouveau. Il est rentré chez lui. Il est retourné à son travail. Et là, je pense qu'on se retrouve dans Saül un peu tous. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on est présent, mais on n'est pas là. C'est-à-dire qu'on est là, mais sans être là. On n'est pas debout dans l'esprit. On est aplati devant l'ennemi, quelque part. On n'est pas debout. On fait acte de présence, mais on n'est pas debout dans l'esprit. Et debout dans l'esprit, c'est être pleinement qui on est, là où nous sommes, assumant nos responsabilités d'aujourd'hui et revêtus de cette autorité que Dieu nous donne pour les grandes et les petites choses. Et on se dit, je suis trop petit, je suis trop insignifiant, je n'ai pas de dons, il y en a qui ont plus de dons que moi, etc. Et donc face à l'injustice, l'identité royale s'est révélée. Et je dis, dans les temps troublés internationaux qu'on vit, Dieu veut lever, il est en train de réveiller son Église, j'en suis persuadé. Et que ce soit, Dieu dit, les choses vont être ébranlées de plus en plus. De plus en plus. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça se calme. Mais dans cet ébranlement, Dieu fait ressortir ce qui est inébranlable et il est en train de lever un peuple de résistants, pas seulement de résistants, mais un peuple qui, quand il voit le pays qui est livré au pillage, avec la mort, la destruction, la crainte, parce que la crainte, c'est une principauté spirituelle qui pille le pays. La crainte, ça empêche les ministères de se lever. La crainte, ça empêche les dons du Seigneur de s'exprimer. Donc ça pille le pays. Eh bien cette crainte, on n'est pas obligé de s'y soumettre. Et donc, il est temps non pas de se cacher, mais il est temps de se réveiller. Je vous rappelle que l'appel de chacun ici, et comme notre appel d'église a été mis dans les annonces, nous sommes une famille qui célèbre la présence de Dieu, qui manifeste son amour, qui incarne son royaume. Nous sommes tous appelés à vivre ces trois dimensions, célébrer, manifester et incarner. Et notre but, c'est manifester cette présence. Dans le Cantique des Cantiques, on voit ce souci de Dieu qui est avec nous. Regardez ce qu'il dit, chapitre 2. « Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce, ta figure est agréable. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les mines. » Regardez, Dieu dit « Fais-moi voir ton visage, parce qu'elle était planquée. Hein. Fais-moi voir ton visage, qu'est-ce qui se passe ? Tu regardes Dieu, il y a une transformation qui se fait, tu es levé, tu es debout, immédiatement après, prenez les renards. » Donc le combat, la bataille, vient après la rencontre du roi. Et ce n'est pas avec les yeux rivés vers le bas qu'on va faire cette rencontre, c'est avec les yeux du cœur tournés vers le haut. Dans 1 Samuel 10, le chapitre qui précède, le chapitre d'investiture de Saül, Samuel dit à Saül quelque chose de très important. Il lui dit, l'Éternel t'a donné l'onction, écoutez ça, pour que tu sois conducteur de son héritage. Il t'a donné l'onction. Saül ne l'a pas mérité. Dieu dit, il a donné l'onction à Saül. Saül n'a rien fait pour la mériter. Il n'avait rien fait, d'accord ? Et Dieu, quand il nous a choisis, nous n'avions rien fait. Et ce n'est pas parce qu'on fait ou qu'on ne fait pas que Dieu nous revêt, mais Dieu nous revêt parce qu'il a choisi de nous revêtir. On s'est repenti, on s'est donné à lui. Dieu dit, il est mon fils, il est ma fille, reçois l'onction. Et j'aimerais rappeler ce passage d'Exode qui dit la même chose. Il s'agit d'Aaron, Exode 40, verset 13. « Tu revêtiras à Aaron des vêtements sacrés, 1. Tu loindras, 2. Tu le sanctifieras, 3, pour qu'il soit à mon service, 4. » Regardez la progression. Onction, les vêtements, c'est un. Est-ce qu'il a fait quelque chose pour les recevoir? Non, il les a reçus. Il est revêtu. Nous sommes, tu es revêtu. Tu n'as rien fait pour, mais Dieu t'a revêtu. Ensuite, tu lui donnes l'onction, tu l'oindras. L'onction n'est pas le fruit de faire des choses pour Dieu. L'onction, elle est donnée parce que Dieu nous a accordé sa justice. Et à cause de ça, il y a cette onction qui nous a donné. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Il m'a oint non pas à cause de toi, mais il t'a oint à cause de Jésus et de ce qu'il a fait pour toi. Et donc cette onction, elle t'est donnée. Il y en a, j'entends parfois des messages qui disent, il faut que tu pries plus. Et c'est vrai, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui te donne l'onction. L'onction, elle t'est donnée dans le cadeau que Dieu t'a donné lorsque tu t'es tourné vers lui. Il t'a donné tout, sa sagesse, son onction, sa vie, sa sainteté. La sainteté, il te l'a donnée. Et donc, il a tout donné. Voilà, tu le revêtiras, tu l'oindras, tu le sanctifieras. Est-ce qu'il a fait quelque chose pour ça? Non. Afin qu'il soit à son service. Et les hommes, ils ont fait le contraire. Les hommes, ils ont dit, tu dois servir Dieu, tu dois bosser, tu dois prier, tu dois faire des œuvres, et peut-être que Dieu va t'oindre. Et si t'oint, peut-être tu vas rentrer dans son service. On a tout inversé. Dieu dit, ça suffit maintenant, je t'ai oint, je t'ai choisi, je t'aime, et quand je te vois, c'est comme si je voyais mon Fils, le ciel est ouvert sur ta vie à cause de l'œuvre de Jésus. Et donc, tu peux me servir, pas pour avoir l'onction, mais parce que tu as l'onction. Et ça change tout. Hein. Ça change tout. Hein. Vraiment, c'est très important. Donc, Saül n'avait rien fait. Il a été oint roi. Nous sommes, l'Église du Seigneur est un peuple de rois. Est un peuple qui est appelé à régner. Aaron, il symbolise à la fois Jésus, si vous voulez, le grand prêtre, le grand sacrificateur, mais il symbolise aussi, il annonce chacun de nous. Parce que nous sommes tous des sacrificateurs, à cause de ce don de la justice. Hébreux 1:9, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Est-ce qu'on se rend compte que l'onction, elle est donnée, on aime la justice. La justice, c'est cette justice que Dieu donne, et c'est aussi cette justice dans ce monde. Hein. Eh bien, aimer la justice, haïr l'iniquité, ça ouvre la porte à la joie. C'est étonnant comme texte. Est-ce que tu as de la haine aujourd'hui pour l'iniquité? Est-ce qu'il y a un sentiment de... Dieu a créé le sentiment, d'accord? Tous les sentiments. Le problème, c'est quand est-ce qu'on les vit et pourquoi on les vit. Mais le sentiment de haine, il vient de Dieu. Et c'est la haine du diable. C'est la haine contre les œuvres des ténèbres. C'est la haine contre l'iniquité. Si tu n'as pas de sentiment de haine, il y a de fortes chances que tu n'aies pas non plus de sentiment d'amour. Et Dieu est un Dieu qui haït l'injustice et l'iniquité. C'est pourquoi Dieu l'a oint de joie. Et donc par rapport à ce que nos pays vivent, il y a une haine pas contre les gens, mais quand les puissances des ténèbres qui doivent nous bouger, nous booster, nous revigorer. Et cette haine, elle n'est pas contre les gens, mais elle est contre les puissances des ténèbres. Et le chemin des hommes, vous voyez, c'est de faire des choses. Et Dieu dit, moi, je t'ai tout donné, je te donne tout. Et prends ce que je te donne et vas-y. Rappelez-vous la bénédiction du fils aîné, Ésaü, hein, qu'il a donné à Jacob. Et Jacob qui vient vers son papa, qui ne voyait plus. Et puis sa maman lui a dit, mais écoute, tu vas recevoir la bénédiction. Mais pour ça, il faut te revêtir d'un animal, d'une peut-être très poilu. Comme ça, quand il va toucher, il va croire que c'est ton frangin. Ça fait un sacré poilu, le frangin. Là. Je pense à notre neveu Samuel en Chine, qui est plein de poils partout. Et les Chinoises là-bas essayent de toucher parce qu'elles n'ont jamais vu un truc pareil. C'est vraiment un truc énorme. Ces cheveux, cette barbe, c'est effrayant pour les Chinoises. Et alors, eh bien, quand il a touché... Excusez-moi, hein, parfois il y a des petites choses comme ça. Voilà, quand il a touché le manteau, il a dit « Oui, c'est bien mon fils ». Et vous savez, il a reçu l'onction et la bénédiction du fils aîné. Et pourtant, dessous, c'était qui ? C'était Ésaü, il l'a mérité. C'était Jacob, il ne la méritait pas. Il ne la méritait pas. Mais il a mis le manteau et il a reçu la bénédiction. Le manteau de justice que Dieu nous a donné, on ne le mérite pas. Mais quand Dieu nous touche, il voit le manteau de Jésus et il donne la même bénédiction qu'à son propre fils. Donc, vous voyez, le fils prodigue aussi qui reçoit la robe tout de suite et l'anneau. C'est tout ça, c'est cette même histoire. Donc, nous sommes des conducteurs. Nous ne sommes pas appelés à être seulement des suiveurs. Être des conducteurs, c'est donner le ton. Être des conducteurs, c'est donner l'atmosphère. C'est pas suivre. On a le choix. Ou on suit les bœufs, ou on suit le Seigneur. Suivre les bœufs, ça peut être très bien. Hein. Ici, il s'agit du travail. Et Élisée aussi, conducteur de bœufs. Hein. Il en avait d'ailleurs 12 pères. C'était des bons dans leur travail. Et Dieu honore ce travail. Mais il y a des moments où il faut dire attention, qui est-ce que je suis ? Saül était appelé à être conducteur. Et lui, non seulement il conduisait par les bœufs, il se faisait conduire par eux. Intéressant. Donc, vraiment, il y a une identité royale. Dieu a dû avoir du travail avec Saül pour que petit à petit, il rentre dans la peau, dans le manteau d'un roi. Rappelez-vous David, c'est pareil. Face à l'injustice, la royauté s'est levée. Qu'est-ce qu'il a vécu comme injustice ? Il entendait Goliath se moquer du peuple d'Israël. Et c'est ça qui a fait de David un roi. Est-ce qu'on sent dans l'esprit la moquerie de l'ennemi sur l'Église du Seigneur, sur les chrétiens ? Est-ce qu'on entend cette principauté spirituelle qui se moque ? Il y a quelque chose qui doit se réveiller. Et David s'est levé. C'est ce qui a fait de David un roi. Il n'y aurait pas eu de Goliath, il n'y aurait pas eu de royauté pour David. Les situations Goliath sont les situations de marchepied pour rentrer dans la royauté. C'est vraiment ça. Conducteur de l'héritage de Dieu. L'héritage de Dieu, c'est quoi ? C'est tous ses enfants. Chaque homme, chaque femme est l'héritage de Dieu. Chaque ville, chaque pays, chaque terre, chaque domaine de la société est l'héritage de Dieu. Et donc, nous sommes appelés à conduire son héritage. J'aime beaucoup, au XVIIIe siècle, dans cette région, avec le début des écoles maternelles, avec le pasteur Oberlin, le premier mot pour qualifier les instituteurs, ce n'était pas le mot instituteur, ce n'était pas le mot enseignant. Le premier mot qui était donné, c'est conducteur. On les appelait les conductrices, les institutrices maternelles, les conductrices de la petite enfance. Ce mot conducteur, conductrice, est resté jusqu'au XIXe siècle pour parler des enseignants qui conduisent. Mais Dieu n'a-t-il pas demandé à son Église d'enseigner les nations, de conduire les nations, de gouverner les nations ? Et donc cette onction royale, eh bien, dans les temps que nous vivons, c'est les temps d'injustice, les temps d'ébranlement, c'est pour que l'identité de roi et de reine se lève dans le pays. Et donc, pareil pour Gédéon, hein, le Madian qui pillait le pays, il fallait toujours planquer toutes les récoltes, et puis à un moment, ça suffisait, quoi. Donc, Gédéon s'est levé. L'injustice lève les rois. Ça fait deux choses, l'injustice. Soit ça fait qu'on se couche, soit ça fait qu'on se lève. Il n'y a pas de milieu. Vraiment, il n'y a pas de milieu. Je pense à un homme en France, un homme, il est très chéri par notre ami Pierre Daniel Martin, c'est Saint-Martin de Tours. Saint-Martin de Tours, c'est pareil. Donc, il est né en 316 après Jésus-Christ, dans l'actuelle Hongrie. Et son père, c'était une famille originaire de Pavie, donc l'Italie. Et il était dans l'armée, assez élevé en grade dans l'armée. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que probablement on l'a appelé Martin, parce que Martin, ça veut dire celui qui sert Mars. Vous savez, parfois, il y a des gens qui pensent que les noms véhiculent des choses occultes ou tout ça. Attention! Parce que Martin, Dieu de la guerre, il a fait la guerre pour Dieu. D'accord ? Il y aurait eu des imbéciles pour lui dire il faut que tu changes de nom. Mais lui, il a gardé ce nom et il a implanté église, campagne d'évangélisation, fait tomber les idoles du pays. C'était quelque chose, hein, Martin. Donc, il a grandi dans ce milieu de la guerre. Il était chrétien très jeune et on nous dit qu'il s'est converti à l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans. Il s'est tourné vers le Seigneur. Et son père ne lui a pas permis. il l'a un peu embêté. Donc il est devenu légionnaire romain. Comme il était fils de magistrat, il est devenu tout de suite officier, très probablement. Et puis on était obligé d'adorer faire le culte de l'empereur. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais à 16 ans, il était déjà dans l'armée et il a été au contact de l'injustice. Et un des épisodes qui nous est retracé, parce qu'il y en a plein qu'on a sûrement oublié, quand il était affecté en Gaule, dans la ville d'Amiens, eh bien, un soir d'hiver, nous sommes en 334, il y avait quelqu'un qui était en train de mourir de froid dans la rue, et lui passait sur son cheval d'officier romain, il prend son manteau, il prend son épée, il coupe en deux la doublure, et il recouvre cet homme pour qu'il ait chaud. Et ce n'était pas la première fois qu'il faisait des trucs comme ça. Il semblerait que toute sa solde, il l'a donnée aux pauvres, etc. Il était connu pour tout donner. Mais là, c'est quelque chose qui est resté dans les annales. Et ce soir-là, le soir du jour où il a donné son vêtement aux pauvres, l'histoire nous dit qu'il a eu une vision. Il a vu Jésus. Et vous savez comment il était revêtu, Jésus, avec le manteau qu'il avait donné aux pauvres. Et donc, face à l'injustice de pauvres, la pauvreté, il s'est levé. Et c'est ça qui a fait que les problèmes sont venus pour lui. Il a dû quitter l'armée et il s'est retrouvé moine. Il est allé vers Poitiers. Il a rencontré un évêque assez fameux. Et il a immédiatement vécu une vie d'adoration. Mais pas seulement d'adoration. Il passait dans la Gaule avec quelques amis. Et dès qu'il voyait des idoles, bing, il est tombé. Au risque de sa vie. Donc il abattait toutes les statues, toutes les idoles, il prêchait l'évangile, il y avait guérison, miracle, prodige, il implantait des communautés, on les appelait les ermitages. Ça a été les premières, écoutez bien, les premières communautés chrétiennes en France. C'était l'an 360, c'était les premières, bien avant les moines irlandais qui vont venir au VIe siècle évangéliser. Donc ça a été, mais ce que je veux souligner dans cette histoire, c'est que face à l'injustice, il s'est levé. Vous voyez ? Et je remarque une constante là. L'identité royale, elle se lève par rapport aux injustices. Il est devenu donc évêque de Tours. Une anecdote que peut-être vous ne connaissez pas, ceux qui aiment bien les animaux, je vais vous apprendre quelque chose. Écoutez ça. Un jour, il voyait deux oiseaux pêcheurs se disputer des poissons. Il était avec ses disciples et il voit la scène. Et il leur dit, les démons se disputent de la même manière les âmes des chrétiens. Et vous savez comment on appelait ces oiseaux ? Les martins pêcheurs. Ça vient de là, ça vient de là, les martins pêcheurs. Vous voyez comme quoi, même dans les prédications, on apprend des trucs. Hein, comme quoi, il faut venir, c'est trop important. On pourrait louper des trucs. Hein. On ressort moins bête toujours, c'est ça qui est intéressant dans les cultes aussi. Hein. Et j'aimerais terminer par le psaume 45 qui nous parle de la justice et qui nous parle du Fils de Dieu. Ce psaume est une description de Jésus et de sa princesse l'Église. On va lire juste la première partie des versets 1 à 9. Au chef des chantres, sur les lys des fils de Corée, cantique, chant d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure, ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est pour toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. On retrouve la parole d'Hébreu, regardez. C'est pourquoi, ô Dieu, donc Jésus, ton Fils t'a oint d'une huile de joie. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Vous voyez, donc il est question de Jésus qui est notre modèle. Et ensuite, on verra la reine qui est parée d'or, c'est l'Église. Mais cette beauté de Jésus, donc elle n'est pas dans son apparence, la beauté de Jésus, la grâce est répandue sur tes lèvres. C'est-à-dire, ce qu'il disait, ça venait de l'abondance de son cœur. Et ce qu'il disait, ce qu'il a dit, a amené la vérité, a amené la vie, amener l'espérance, un cœur rempli de grâce. Et Jésus nous parle toujours avec grâce, aujourd'hui encore. Et on voit que ce cœur de grâce de Dieu, il utilise, cette force qu'il a, qui aurait pu détruire, mais il l'utilise pour non pas se venger, mais pour relever, encourager les autres, bénir. Dieu t'a béni pour toujours. Utiliser l'autorité que Dieu nous donne en tant que fils et fille du roi pour bénir, pour encourager, pour relever. L'autorité que Dieu donne n'est pas pour écraser, encore une fois, elle est pour accompagner, pour faire croître. Et nous avons cette idée du courage au verset 4, « Saint ton épée, vaillant guerrier ». Et ça, c'est tout Jésus. Hein. Il est à la fois cet agneau et à la fois ce lion qui a cette épée. Où en est ton épée aujourd'hui? Quelle est la dernière fois que tu as dégainé ton épée, qui est la parole de Dieu? Est-ce que la semaine qui vient de se passer, il y a eu un moment où tu as dégainé ton épée, tu as proclamé cette parole? Bien, je t'encourage à le faire et à ne pas les laisser dans le trousseau, mais à proclamer cette parole dans les situations, sur ta vie, sur le pays, et à continuer à le faire. Donc, saint ton épée, vaillant guerrier. Et regardez, l'épée donc, se lève pour défendre la vérité, la douceur, la justice. Si la justice s'éloigne de la place publique, eh bien, il y a tout l'amour se refroidit. La Bible dit qu'il y a un rapport entre la justice et l'amour. Et je pense à le fondement du trône de Dieu, c'est l'équité. Le fondement du trône de Dieu, c'est la justice. Et cette justice, Dieu veut qu'on amène cette justice. Cette justice, il la donne. Mais cette justice, par rapport à des enfants qui ont été, par exemple, tués, etc., il y a une œuvre d'injustice. Il y a parfois des gens qui disent, mais s'il y avait un Dieu, comment se fait-il alors qu'il laisse des enfants et des familles mourir, etc. On n'a pas la réponse à tout. Mais ce qu'on sait, c'est que nous n'avons à nous lever et à ne pas laisser l'injustice dominée. Et je crois que là, il y a un message par rapport à nous, par rapport au fondement même du trône de Dieu. Dieu utilise la douceur pour vaincre, il utilise la douceur pour exercer la justice. Et la justice, nous avons à l'exercer en premier lieu lorsqu'on loue le Seigneur, qu'on a une épée dans les mains et qu'on commence à proclamer la parole sur le pays. Il y a des gens qui peuvent peut-être sourire en disant « mais c'est que ça vos armes ?» Je peux vous assurer que cette arme-là, elle est vraiment puissante. Elle est vraiment puissante. Et nous sommes dans des temps où nous devons l'utiliser, cette arme, pour la justice. Et non seulement Dieu veut qu'on ait un sceptre de justice, parce que le sceptre de son règne, c'est un sceptre de justice. Le sceptre de justice, ça veut dire qu'il veut qu'on gouverne avec justice. Nous serons toujours des gens frustrés, et toujours de frustration en frustration, si nous ne rentrons pas dans notre mandat qui est de gouverner. Ce mandat de gouverner, c'est le mandat de tout chrétien. Nous sommes appelés à gouverner. Ça commence par soi-même, mais de gouverner avec justice et donc haïr l'injustice qui est déjà parfois en nous et commencer à combattre ce bon combat. Mais ce gouvernement, nous sommes appelés à donner le ton et à gouverner. C'est pour ça, dans ces temps de vacances, où quelqu'un a dit « Dieu n'est jamais en vacances », le culte a été introduit comme ça, mais je crois que c'est vrai. Je crois que, rappelons-nous, dans ces temps, peut-être nous pouvons être dans un repos plus particulier, attention à ce que ce repos, ça ne soit pas une cachette. Attention à ce que ce repos ne soit pas une fuite aussi. Mais ce repos, que ce soit des forces nouvelles prises en Dieu pour mieux gouverner, pour mieux exercer le mandat de la justice, de gouverner avec justice. La Bible dit dans Psaume 125, « Le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Ceux qui se savent justes n'ont pas la méchanceté qui domine sur leur vie. » Jésus ne cède jamais à l'injustice. « Tu aimes la justice, il est dit de lui. Tu hais la méchanceté, c'est pourquoi Dieu t'a oint. » L'onction de Dieu sur son Église est proportionnelle à la haine sur tout ce qui est injuste, tout ce qui est mort prématuré, tout ce qui est maladie. Il y a une haine. Il y a un témoignage que j'entendais récemment de Bill Johnson qui m'a touché personnellement. Parce que quand on parle de Bethel, on parle à une vie, vous voyez, où ça coule, où les guérisons pleuvent. Et est-ce que vous savez que pendant 7 ans en tant que pasteur, il a prêché la guérison sans en voir une seule. 7 années sans aucune guérison, en priant tous les jours pour les malades. Un jour, au bout de 7 ans, il en a eu une guérison dans la ville. Un gars, il prie pour lui, il est guéri. Et de nouveau des années encore, sans aucune guérison. Mais il a creusé. Cette injustice de la maladie, il ne l'a pas laissé tomber. Il n'a pas dit c'est comme ça. Pendant des années, il a dit mais la parole dit ceci. C'est qu'elle est vraie. Il faut qu'on... Et il a creusé l'histoire des réveils, l'histoire de l'église, de l'onction de guérison, etc. Pendant des années, sans jamais rien voir. Avec les moqueries de ceux qui disaient « Et c'est quand la guérison ?» Vous rendez compte ? C'est long, 7 ans. Plus quelques années encore. C'est long. Dans le ministère que tu as donné pour gouverner, peut-être que pendant 7 ans, tu ne verras rien. Mais Dieu dit « Continue ». Et persévère à croire ce que la parole dit. Comme Werner a dit, je décide de croire ce que la parole dit. Et ça, c'est cette haine contre la maladie, cette haine contre la dépression, contre tout ce qui avilit l'homme, tout ce qui veut le tuer. Cette haine-là, elle est l'essence et le carburant pour que l'identité royale de chacun de nous se lève pour le Seigneur. Que cette onction, elle nous est donnée pour transformer les nations, pour transformer l'atmosphère autour de nous. Alors que le Seigneur nous encourage, nous sommes tous un peu des Saül, il ne faut pas croire, hein. On est tous un peu, il y a quelque chose en nous qui est porté à se cacher, à se planquer derrière les bagages. Et même quand tu as exercé une certaine royauté à un moment, il y a quelque chose qui te dit « bon, maintenant c'est bon ». Non, Dieu dit, tu es appelé à gouverner. C'est ton poste. Alors, ceins ton épée, vaillant guerrier, pour la cause de la vérité et de la justice. Et que les talents cachés au milieu de nous, les identités royales qui ne sont pas encore complètement révélées, eh bien, moi, je bénis Dieu pour les situations d'injustice qu'on est appelé à confronter ensemble, afin que ça se réveille et que ce qui est endormi peut-être, ce qui est caché se voit maintenant. Cette identité royale, on ne l'a pas reçue de façon individuelle, on l'a reçue de façon collective. Vous êtes un peuple, une nation sainte, tous ensemble. Alors on veut simplement prier et j'aimerais pendant ce temps de prière qu'on se positionne, qu'on se repositionne par rapport à cette identité de roi. Alléluia Jésus. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour toutes circonstances qui concourent au bien de ceux qui t'aiment. Et dans les circonstances d'injustice profonde que notre pays a traversé et traversera peut-être encore. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui pleurent comme le peuple d'Israël. Lorsque les Ammonites ont dit « on va vous crever un œil et vous nous serez soumis », ils se sont mis à se lamenter. Mais un jeune homme qui était loin de l'esprit, s'est levé et a rassemblé le peuple et a dit non et a sauvé le peuple d'Israël. Seigneur, merci pour cette onction de l'Esprit qui est en chacun de nous, cette identité, cet ADN de roi et de reine dont tu nous as chacun revêtu. Seigneur, merci que personne au milieu de nous se cache sous la condamnation, sous le doute, sous la crainte. Mais Seigneur, qu'on soit bien positionnés et debout ensemble, exerçant notre plein rôle de sacrificateur pour le Seigneur, exerçant notre mandat de gouverneur, là, dans le travail où tu nous as placés, dans les familles où tu nous as placés, dans les villes et les villages où tu nous as mis. Merci Seigneur pour le manteau de justice qui fait que le ciel est ouvert sur chacun de nous. Merci Seigneur parce que tu utilises les injustices pour lever les rois et les reines. Seigneur, merci. Seigneur, que le sentiment de haine par rapport aux œuvres du diable soit ravivé en chacun de nous. Que la sainte colère par rapport aux œuvres des ténèbres soit ravivée. Et que la vision de ce qui nous sommes et de qui tu es en nous soit ravivée également. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Amen, Jésus. Amen.